Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Et ce soir, nous allons voir le chapitre 2. Chapitre 2 qu'on va faire en une seule séance. Alors c'est un des gros trucs à avaler pour l'examen du par cœur. Ce sont les fréquences. Et on va aussi parler des puissances autorisées de quelques sujets annexes. Alors, j'ai pas poussé ça. Voilà. Alors, quand on parle de fréquences attribuées, on va revenir un petit peu aux fondamentaux. Ce dont on va parler là, tout de suite, il n'y a pas de question à l'examen, mais c'est pour vous expliquer d'où vient cette réglementation, parce que ça, c'est pas comme ça que c'est arrivé. Il y a des tas de textes qui permettent de déterminer ces bandes attribuées. En France, on en a 27 bandes attribuées. Et donc, ces bandes, elles sont issues de divers textes. Le texte français, en fait, il y en a même deux. Il y a le texte qui est la décision ARCEP 12-1241. Avec son annexe 1 qui précise toutes les fréquences auxquelles on a droit ainsi que les statuts et un commentaire, on va le voir tout à l'heure. Cette décision 12-1241, elle a été modifiée par la 13-15-15, voilà, qui nous a donné le 472 kg. Et dernièrement, on a eu aussi la bande du 60 mètres. Donc elle a été, cette 12-1241, elle a été modifiée par deux fois. Je ne l'ai pas rajoutée là parce que j'avais plus la place pour mettre tout ça. Mais voilà, sachez qu'il y a eu deux modifications de cette décision ARCEP en 2015 et plus récemment pour le 60 mètres, et de mémoire, c'était 2019, je crois, sans être certain. Donc ça, c'est d'une part, et d'autre part, 2019, 12, 14, 12, voilà, modifié, les deux modifications, elles sont là, je les ai bien notées, tout va bien. Donc ça, c'est pour les bandes autorisées par l'ARCEP. Le problème, c'est que l'ARCEP n'est pas compétente dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer. C'est valable dans les départements d'outre-mer, mais pas dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, par exemple la Polynésie, par exemple la Nouvelle-Calédonie. J'ai plus en mémoire d'autres, mais voilà, il y a quand même quelques territoires où l'ARCEP n'est pas compétente. Et donc, pour cela, il y a besoin d'un arrêté. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques. En l'occurrence, c'était Bruno Le Maire qui a signé cet arrêté, qui date du 2 mars 2021, il a été publié en même temps que l'arrêté modificatif qui a supprimé le point négatif à l'examen. Voilà. Donc, alors c'était un texte qui était très attendu parce que la dernière modification datait de 2009 et il y avait plein de bandes qui, entre-temps, étaient autorisées par le TNRBF, donc les autres textes français, mais pas officiellement puisque l'arrêté n'était pas modifié. Et il n'y avait pas eu d'arrêté modificatif. Comme il y a eu des décisions modificatives là en 2013 et en 2019. Donc voilà. On va revenir sur ce texte et voilà, quelques trucs un peu particuliers. Ces deux décisions et arrêtés, ça provient du tableau national de répartition des bandes de fréquences, donc le TNRBF, qui est signé par le Premier ministre et qui ne s'intéresse pas qu'aux fréquences radioamateurs, il s'intéresse à tout le spectre. Donc c'est le TNRBF qui est signé par le Premier ministre, et le TNRBF, il assigne des bandes à l'ARCEP qui, elle-même, attribue les bandes aux différents services qui y sont rattachés, notamment le service amateur. Le TNRBF, c'est un document que vous trouvez sur Internet gratuitement. Alors c'est gratuit, mais ça n'a pas toujours été gratuit. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'il est gratuit, qu'on trouve gratuitement sur Internet. Auparavant, c'était payant. La dernière modification, elle est toute récente, elle date de mai 2021. Il n'y a pas eu modification concernant nos bandes. Je regarde quand même à chaque fois qu'il y a une nouvelle version du TNRBF, des fois que le point, c'est pas trop rajouter des bandes. Le point, c'est plutôt les retirer, ça serait très difficile, mais ça serait changer de statut. Changer de statut ou ajouter un nouvel utilisateur. Voilà, si en nouvel utilisateur, on vous colle Galileo, ça peut poser problème. D'ailleurs, on va voir les problèmes que ça pose un peu plus tard. Et donc le TNRBF, on va le voir tout à l'heure, ça récapitule finalement tout ce qui a été décidé au niveau de l'UIT et écrit dans le RR. Donc dans le TNRBF, il est rappelé le RR, donc avec des conditions assez, assez vagues, puisque le TNRBF, le RR, c'est un document UIT, donc pas très détaillé, et il faut aller dans le TNRBF pour voir concrètement en France qui s'occupe de quoi. Mais de toute façon, il faut se recaler par rapport à ce qui a été défini dans le RR. Donc ce RR, vous l'avez, je vous ai mis le lien ici, si ça vous intéresse. Vous les avez aussi d'ailleurs sur le site internet, hein, dans les documents de réglementation. Histoire de vous motiver, le volume 1, donc le tableau des fréquences, donc la section 1, ça occupe, je dirais, 300 pages des 442 pages, grosso modo. Voilà, ça motive tout de suite. Hein, c'est impeccable pour caler une armoire, ça c'est bien, 442 pages. Et oui, puis si vous n'avez pas assez, il y a encore 298 pages pour le TNRBF. Voilà. Ou si vous avez des insomnies, c'est très bien aussi. Donc, petit rappel quand même des bandes menacées. À l'heure actuelle, on a le 2Go3. Puisqu'on avait reçu en mai 2015 un courrier, enfin tout au moins les associations avaient reçu un courrier de l'ARCEP en mai 2015. Le 2Go3, je rappelle quand même, il y a essentiellement le Wi-Fi, le Bluetooth et tout ça là-dedans. On est secondaire comme ces appareils-là et on nous demandait de faire attention que, bien qu'on soit secondaire comme le Wi-Fi et le Bluetooth, par exemple, de prendre garde à ne pas trop perturber ces services-là. Donc, 2Go3. Une bande là qui est un peu plus menacée, c'est le haut de la bande 1240-1300, puisque c'est cette bande qui a été retenue pour Galileo faire en sorte d'avoir une meilleure définition de la position, de la géolocalisation. Donc c'est ce qu'on appelle le HAS, c'est un service spécial pour les professionnels, et qui permet de savoir précisément où on est, quasiment au mètre près. Parce que GPS le fait aussi, mais pour cela, il faut avoir à côté une référence avec un point connu. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est par calcul de différence que l'on calcule la position réelle. Le HAS, il n'y a pas besoin de ce dispositif complémentaire. Donc, typiquement, c'est pour le GPS, pour les véhicules qui seraient son conducteur.
On va être prêt pour arriver à la feu rouge.
Eh ben oui. Oui, c'est pour ça, c'est être au mètre près et donc arriver. Alors, s'arrêter au feu rouge, mais aussi ne pas sortir de la route.
Voilà, c'est surtout ça.
Surtout ça. Et donc là, il y a une grosse problématique, c'est que, alors déjà, Edune, on est secondaire sur cette bande-là. Galileo est aussi secondaire, il n'est pas primaire, mais voilà. Le maître des lieux, c'est la défense.
Ah bien,
primaire, c'est la défense.
Faut pas jouer avec eux.
Donc, faut pas non plus jouer avec eux. Et lors de la dernière CMR, donc à Sharm El Sheikh en 2019, il y a eu une résolution, donc la 774, qui a dit qu'il fallait mener des études sur cette fameuse cohabitation. Alors, les radioamateurs sont visés, mais pas que. C'est tous les autres secondaires.
Ah oui, c'est le secondaire.
Voilà. Et il y a du monde, pas mal de monde sur cette bande. Donc on a, y a quand même un risque. De même sur la bande, alors c'est quand même plus haut, 76 gigas, mais sur cette bande-là, on aurait les radars, ce qu'ils appellent les radars ADAS. Ce sont les radars que l'on met sur les voitures, encore une fois, pour déterminer quels sont les obstacles qu'il y a devant ou sur le côté, quand vous conduisez. Et encore une fois, c'est pour la conduite automatique des véhicules. Voilà.
Quelle est la portée de ces...
C'est là un petit peu le problème. C'est que pour le moment, ce ne sont que des pistes.
Ouais, des approches. Là.
Des approches. Donc, on ne sait pas trop comment ça va évoluer et quelles seront les préconisations des constructeurs pour ces trucs-là. Ce qui est certain, c'est que Galileo, il y a des satellites qui tournent autour de la Terre, donc ça y est, c'est parti. Par contre, ils n'ont pas encore mis en place le service HAS. Ou tout au moins, s'ils l'ont mis en place, ils ne l'ont pas commercialisé, disons. Mais à un moment, ça va être commercialisé, ça. Alors, à mon sens, il y a très peu de risques que les signaux radioamateurs brouillent ces signaux-là, sauf s'ils sont vraiment à proximité. Mais oui, et puis même de toute façon, ce système-là, un GPS, typiquement. C'est pas parce que vous passez sous un tunnel que le GPS il s'arrête. Le truc il recalcule. C'est prévu.
Il regarde pas seulement un...
Et puis c'est pareil, on va pas supprimer tous les ponts parce que le signal serait perdu. C'est con comme truc, mais.
Surtout quand on passe dans le tunnel du Fréjus.
Ouais, enfin non, mais même tu passes sur un pont sur l'autoroute, tu perds le signal.
Ah ben là. Sur la Transilienne.
Bah oui, tous les petits trucs. Donc on va supprimer tous les ponts. C'est complètement con. Quand on passe sous un pont, évidemment, quand on passe au-dessus, on s'en fout. Mais quand on passe en dessous, c'est un petit peu gênant. Et juste pour votre information, pour vous donner une idée, que les bandes qui nous sont attribuées coûtent cher, c'est que quand il y a eu la mise aux enchères pour la 5G, donc les bandes 3,5 à 3,4 à 3,8 gigas pour la 5G, ça a fait, donc c'était des blocs de 10 mégas qui étaient vendus aux opérateurs, donc Free, SFR, Orange et Bouygues, et donc le bloc s'est vendu 126 millions d'euros.
Dis-moi ça, qui dispose au départ des fréquences et qui les attribue
qui dispose, c'est le domaine public de l'État.
Mais ça nous concerne nous ici, mais les Suisses.
Ah ben chaque pays a son, c'est son. Et c'est pour ça que c'est un petit peu. Et chaque pays, c'est pareil, a mis aux enchères ses fréquences pour la 5G. Alors mis aux enchères peut-être pas, ou vendu. Mais en tout cas, en France, ça a été vendu pour 126 millions d'euros pour 10 mégas. Donc, et ça va directement dans les poches de l'État. C'est pas, c'est une recette comme les impôts, hein.
Ou comme les souterrains, enfin les mines, tout ça.
Ah bah oui.
Dès que tu
Les
dépasses,
concessions, oui.
tu es en dessous du gazon, c'est plus à toi.
Ouais, c'est les concessions. Ouais. Et ça, c'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire que l'administration, enfin l'État, va nous demander. Parce que nous, on a quand même plus de 10 mégas de bande, hein. Donc, j'espère qu'un jour, l'État ne va pas se souvenir de nous et nous envoyer la facture individuellement, on serait mal. Même si on divise ça par le nombre de radioamateurs, ça va faire quand même très
Oui, ça
mal.
fait grosse pilule.
Voilà. Bon. D'autant plus que, je vous rappelle, on paye plus de redevances annuelles. Donc, voilà. Pour rappel, alors ça, il y a des questions à l'examen. Donc pour ça, je préfère vous le dire tout de suite. Le monde est. Alors, l'UIT a défini trois régions. La région 1, la région 2, la région 3. Et selon la région, on peut avoir des attributions de fréquences différentes. J'ai bien dit, on peut. La plupart du temps, quand même, c'est harmonisé. Tout au moins en décamétrique, puisque les ondes décamétriques, par définition, elles font tout le tour de la Terre, c'est harmonisé. Plus on monte en fréquence, moins ça l'est. Mais c'est quand même harmonisé, tout au moins on essaye de le faire, ne serait-ce que déjà au niveau du matériel, c'est-à-dire que quand vous êtes en Europe, eh bien que vous ayez pas, voilà, en Suisse, c'est une norme et donc avec des fréquences, et puis vous changez de pays, et qu'est-ce qu'on fait à la frontière? Voilà. Donc il y a une harmonisation qui est faite, et cette harmonisation est faite par région. Il y a trois régions. Alors, un truc simple, la région 2. C'est facile parce qu'il y a des océans, donc on arrive facilement à trouver ce que c'est. La région 2, donc c'est l'Amérique et ici le Pacifique Nord. Ici c'est l'océan Pacifique, c'est la partie nord de l'océan Pacifique. Ici vous retrouvez ici la ligne C qui est coupée en deux en fait. La région 1, alors la région 1, elle devrait passer en théorie ici par le pointillé. OK? Et donc la région 1, c'est grosso modo Europe-Afrique. Pour faire simple. Et puis ici, le Proche-Orient, enfin, Proche et Moyen-Orient. Problème, c'est que, en plus, pour les régions, il a été dit qu'on ne coupait pas un pays en deux. Voilà. Donc, typiquement, la Russie, qui est tout ça, enfin, l'ex-URSS, qui était tout ça, on leur a gentiment demandé où est-ce que vous voulez aller en région 1 ou en région 3, et eux ont répondu, bah en région 1, puisque Moscou est en région 1. Voilà. Donc c'est pour ça que cette frontière de la région 1, elle passe comme ça, bizarrement.
Au-dessus de la région 3.
Voilà. Mais normalement, elle aurait dû passer ici, selon le pointillé. D'accord? Et dans ce pointillé aussi, il y a des pays qui se trouvent à cheval sur le pointillé, donc on leur a demandé. Où est-ce que vous voulez aller, à droite, à gauche? Voilà, et ils ont défini. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a ici un truc un petit peu tordu, parce que voilà, ça passe bizarrement. Voilà, enfin voilà des conneries comme ça. Donc la région 1, maintenant, c'est, on va dire, Europe plus ex-pays de l'URSS. Je vous dis ça ex-pays de l'URSS parce que du coup. Ceux qui ont obtenu leur indépendance, ils n'ont pas changé de région pour autant. du style, alors peut-être pas l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est encore Europe, mais je pense à l'Azerbaïdjan et tous les pays, le Tadjikistan et autres pays qui normalement devraient être en région 3, ceux-là sont restés en région 1. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ex-pays de l'URSS. Et enfin, la région 3, bah, c'est grosso modo Asie et Pacifique Sud. Puisque ici, vous avez la région 3 qui revient ici. Elle continue là. Hein, là, de chaque côté. Voilà comment ça se passe. Et pour chaque région, eh bien, on définit aussi des utilisateurs. Et nous, les utilisateurs, c'est donc le service d'amateur, on l'avait vu la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, et le service d'amateur par satellite, donc on va appeler ça AMA pour amateur et AMS pour amateur par satellite. Sauf que amateur par satellite, on n'a pas été suffisamment précis. C'est-à-dire que satellite, on peut avoir des liaisons montantes, des liaisons descendantes et des liaisons bilatérales, c'est-à-dire montantes et descendantes. Donc AMS, c'est les liaisons bilatérales. AMT, c'est de la Terre vers l'espace. Et AME, c'est de l'espace vers la Terre. Donc liaison montante, AMT, liaison descendante, AME. Lorsque le service est primaire. On va voir ce que ça veut dire primaire tout à l'heure. Il est écrit en majuscule dans le RR et d'ailleurs aussi dans le TNRBF. On a repris la même codification. Et lorsque c'est en minuscule, le service est secondaire. On va voir ce que veut dire primaire et secondaire. Enfin, on peut s'en douter un petit peu. Rien qu'au nom, on s'en doute un petit peu. Ça, c'est mon RR. Je vous fais un petit zoom. Un petit zoom avant. Donc ça, c'est... Là, j'ai fait exprès de... Oula, peut-être un peu trop. Exprès de prendre le 144. Alors, attends, j'ai peut-être un zoomé un peu trop. Voilà. Donc là, j'ai analysé la bande 144. Donc, dans le RR... Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les fréquences de 137, 175 à 148 mégas. D'accord ? Et donc là, il y a les trois régions. Vous remarquez qu'à chaque fois, c'est quasiment tout le temps les mêmes services. C'est partout les mêmes services, sauf, exemple, ici. Ici, on a un gros pavé qui dit que 144, 146, c'est amateur et amateur par satellite. Et pour 146, 148, on n'a que amateur, pas amateur par satellite, mais uniquement en région 2 et en région 3. En région 1, c'est le fixe et le mobile. Alors, on sait pas trop ce que c'est, fixe et mobile, hein, mais en tout cas, c'est pas nous. Ça s'appelle pas amateur, donc c'est pas nous. Et là, d'ailleurs, c'est mobile, sauf mobile aéronautique. Donc, bon, pas trouver d'avion.
Oui, ils sont toujours sur les bandes.
Oui, mais bon, c'est un type de mobile. Donc, ça, c'est cette bande. Et donc, ça, c'est le RR, page 76 du RR. Alors, pour que les ondes décamétriques fassent le tour de la Terre, il faudrait... Une puissance de quel ordre de watts? Des puissances ondes décamétriques, je dirais que quand on est en WSPR, on doit avoir une dizaine de watts. Le WSPR, c'est un système qui permet de savoir s'il y a de la propagation ou pas. Donc ça envoie juste une petite onde pas trop méchante et derrière, on récupère l'information sous forme numérique. Oui, avec 5 watts. Ouais. Le Canada avec 5 watts en morse, ça se fait sans problème. Alors, historiquement, il y a eu des cas importants ou non de radioamateurs qui ont utilisé des fréquences qui ne n'auraient pas. Ah, Alors là, il y en a très souvent qui. Alors, du coup, on ne peut pas appeler ça des radios amateurs. Moi, j'appelle ça des radios pirates, mais bon. Mais radio amateur, normalement, on utilise nos propres fréquences. Et quand on n'utilise pas nos propres fréquences, et bon, on appelle ça des pirates. Ouais. Mais ça existe tous les jours, hein. Et voilà. Comme je dis toujours, la vitesse est limitée à 130 sur l'autoroute, mais combien de gens le dépassent? Voilà. Pour autant, ce qu'on sont quand même des conducteurs. Ce qu'on n'a pas vu là, c'est que ici, il y a deux articles, donc le 5207 et le 5217. Ça, c'est ce que l'on appelle des notes de bas de page. Donc, ce sont des pays qui ont demandé à rajouter des commentaires, donc le 5216 et le 5217. On va lire ce qu'ont demandé chacun des pays. Donc, le 5216 est une attribution additionnelle, c'est-à-dire qu'en plus des services qui sont indiqués, donc services d'amateurs et amateurs par satellite, on trouve en Chine la bande 144-146 et de plus attribuée au service mobile aéronautique à titre secondaire. Donc, on peut trouver en Chine des avions, enfin des avions au service aéronautique, je ne sais pas trop ce qu'est, ou c'est peut-être la communication au sol, je ne sais pas, mais en tout cas, la bande 144-146 en Chine, c'est aussi pour le service mobile aéronautique. Voilà. Et la 5217, c'est une attribution de remplacement. Ça veut dire que à la place de la bande amateur, comme c'est indiqué, on a en remplacement dans les pays suivants, Afghanistan, Bangladesh, Cuba, Guyana et Inde, la bande 146-148 est attribuée au service fixe et mobile à titre primaire.
Là, vous trouvez ce panneau, non?
Alors, je ne sais pas quel est ce service. Enfin, quels sont ces services fixes et mobiles? Enfin, en tout cas, les amateurs n'y ont pas le droit. Et bon, évidemment, ces textes-là n'ont pas été. Parce que, aussi, on a des attributions additionnelles et de remplacement qui sont demandées par la France. C'est ce qu'on appelle ces fameuses notes de bas de page. Là, en l'occurrence, la France n'a rien demandé et c'est tant mieux. Donc ça, c'est le RR. Je rappelle, il y a 448 pages. Voilà. Donc ce sont les pages 86 et 87 du RR. Et 144, 148, du coup, on est au début de la liste, hein. N'oubliez pas que ça va jusqu'à 3 gigas, hein. Donc il y a encore un peu de bande derrière. Et ensuite, on a le TNRBF. Le TNRBF, donc c'est le document français. Petit zoom. Donc je vous ai mis de la même manière la bande 144-148, en l'occurrence. On va descendre un petit peu. Ici, on a rappelé le RR. Donc amateur, amateur par satellite. Vous voyez amateur. Fixes et mobiles qui sont primaires, tout le monde est primaire. En région 3, en région 2, il n'y a que amateur qui est primaire. Et mes deux commentaires, le 5217 et le 5216, qui est rappelé. Ça va de 144 à 148, et ici donc c'est coupé 146. Et sur le TNRBF, on va vous dire précisément qui est attributaire. Donc, en région 1, 2 et 3, c'est l'ARCEP qui attribue les fréquences aux services amateurs et amateurs par satellite. Avec ici quelques notes spécifiques au RR, au TNRBF, c'est-à-dire qui ne sont pas inclus dans le RR, mais qu'on va voir. Donc la F17, la F35 et la A1. C'est-à-dire que ces commentaires-là ne viennent pas du RR, mais ont été rajoutés dans les textes français. Et donc là aussi, A35 et A1. Et là, vous voyez, vous trouvez toujours ces mêmes commentaires ici pour toutes les régions. Remarque sur la région 3, ce n'est pas l'ARCEP, c'est le HCR. C'est le fameux, donc c'est le haut commissaire de la République, qui fixe les bandes en région 3, et c'est les fameuses, puisque l'ARCEP n'est pas compétent en région 3.
Wallis et Futuna.
Ouais, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, voilà. Polynésie, voilà. Et donc, chaque territoire a un haut commissariat de la République, c'est-à-dire en fait un représentant de la République française qui pond les textes, qui sont en fait issus de l'arrêté du 2 mars 2021. Et donc, c'est l'équivalent, le HCR, c'est l'équivalent de l'ARCEP pour nous en métropole et dans région 1 et en région 2. Vous remarquez juste aussi qu'en région 3, on n'a pas les mêmes attributaires. Ici, bande 146-148 en région 2, ce n'est que le service amateur en majuscule. Et donc, ils sont primaires. Là, par exemple, vous avez un service secondaire. REE, je ne sais pas ce que c'est, mais ici, c'est un service secondaire. La ESP, c'est l'espace. Donc, je ne sais pas ce qu'ils foutent, là. Enfin, voilà, c'est l'espace. REE, je ne sais pas, c'est peut-être un satellite météo, que sais-je. Je ne sais pas. Enfin, faut chercher, hein. On peut trouver. Mais en tout cas, nous, service amateur, on est primaire et exclusif en région 2, de 146 à 148. En revanche, on n'est pas primaire, enfin, on est primaire mais non exclusif, donc on a un statut dit bande partagée, puisque si on a d'autres primaires, c'est que... on a un statut de bande partagée. Et donc, on est en concurrence avec la défense. Donc, les services fixes et mobiles de la défense. Et on va savoir, et évidemment, celui qui est prioritaire, c'est la défense. Donc, on est primaire, mais avec un statut partagé, mais pas complètement partagé, puisque la défense est prioritaire. Et donc, c'est le F-35 que l'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce F-35? Qu'est-ce que c'est que ce F-17? Et qu'est-ce que c'est que ce A1? Donc ça, on peut le faire pour toutes les bandes, hein. Ça marche très bien. Donc ça, c'est la page 88 du TNRBF. Et la page 89, eh bien... elle vous donne premièrement les notes de bas de page qui sont rappelées du RR, et donc elles sont bien là, les notes de bas de page, on ne va pas les revoir, mais c'est les mêmes que sur le RR, et d'autre part, en bas de cette page de commentaires, vous avez les commentaires propres au TNRBF, que l'on va voir tout de suite. Alors le A1, déjà, c'est une annexe avec les cas particuliers concernant la défense. Donc là, il y a une annexe qui est donc annexée au TNRBF avec tous les cas de figure et toutes les bandes qui vont être occupées par la défense et quelles sont les caractéristiques générales. Hein, l'annexe 1, c'est ça, les caractéristiques générales concernant le service de la défense. Et puis on a donc le 17. Alors le 17, c'est attribution additionnelle. Donc on fait la même chose que dans le RR, sauf qu'on ne l'a pas dit dans le RR. On l'a écrit dans le TNRBF, mais on ne l'a pas dit on l'a pas dit lors des conférences de l'UIT. Peut-être que le mec n'était pas là en commission et qu'il a oublié, ou je ne sais pas. Hein. Enfin, en tout cas, on a une attribution additionnelle, donc MBO pour la défense, DEF, défense, sur les bandes 28, 29, 7 et 144, 146, donc c'est valable aussi pour le 10 mètres. Et donc, on a une attribution additionnelle pour la défense, pour des besoins intermittents avec une puissance rayonnée maximale de 12 dB. Ça fait grosso modo 15 watts PIR. C'est pas beaucoup, mais ah, c'est un talkie-walkie de l'armée en clair, pour faire simple. Donc ça, le 17, l'armée peut aussi utiliser notre bande pour son utilisation. Le 33. Alors le 33, ça ne nous concerne pas parce que ces bandes 140, 148 825 à 149 900. Donc ça ne nous concerne pas. Donc je la laisse tomber. En revanche, F-35, utilisation par DEF, encore la défense, pour l'exploitation de bouées acoustiques en mer dans la bande 137-173 mégas. La première fois que j'ai vu ça, c'est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Eh bien, j'ai cherché. Il suffit de taper sur Internet bouée acoustique. Et voilà ce que c'est. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui sont largués à partir d'un hélicoptère et qui permettent d'écouter les sous-marins. C'est-à-dire que cette petite bouée-là, elle va flotter sur l'eau. Il y a un petit micro qui récupère les ondes acoustiques de la dans la mer, c'est renvoyé sur l'hélico par une fréquence radio, cette fameuse fréquence sur laquelle ils utilisent, et ensuite bah, c'est envoyé à un centre de traitement pour l'écoute des sous-marins et donc reconnaître les bruits des sous-marins, les fameuses oreilles d'or là, dont des fois on voit ça dans les films de presque de science-fiction, mais enfin de des films un peu à sensation, et ça existe. Donc vous cherchez un petit peu, voilà. Et c'est un système qui a été développé, évidemment, par donc principal fournisseur. Voilà. Donc ceux qui veulent savoir, donc il y a une petite vidéo là qui explique et qui montre comment ça marche. Alors peut-être qu'elle a été retirée depuis. Enfin voilà. Et donc en fait, il y a un micro dans le truc, dans la bouée là, et qui renvoie enfin, l'audio par VHF sur l'hélico. Je suppose que c'est un hélico, et enfin un engin qui vole au-dessus et qui après retransmet ça à un centre de traitement quelque part. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces signaux, ils passent par la VHF. Et potentiellement, ils peuvent passer par la bande radio amateur, puisque ça va de 137 à 173 mégas. Donc la bande 144, elle est pile poil dedans. Est-ce qu'ils le feront vraiment? Je ne sais pas. De toute façon, c'est plutôt. Enfin, ça concerne plutôt des stations qui seraient en bord de mer. Plutôt qu'à Paris ou dans les Alpes. Voilà, on pourra entendre le chant des baleines. Voilà. Donc on en arrive à ce qui nous intéresse, nous, ce que vous devez savoir, c'est bah, les bandes de fréquence attribuées. À chaque fois, vous allez avoir la gamme d'ondes, enfin il faut connaître la gamme d'ondes, la bande en longueur d'onde. On reviendra sur les gammes d'onde quand on fera la partie technique de la réglementation. Il faut savoir que donc chaque bande est décrite soit par sa longueur d'onde ou par ses fréquences, enfin, tout au moins les débuts et fins de bande. Donc quand on parle de la bande de l'île de 122 mètres, c'est une approximation, c'est plus pour ce, c'est un chiffre un petit peu symbolique, c'est, et voilà, qui permet de bien mémoriser, et donc elle va de 135,7 à 137,8. Quand on voit une fréquence comme ça, on peut se dire qu'on ne peut faire que du morse là-dessus. Difficile de faire de la BLU, ou alors sinon on prend toute la bande. Voilà. Et donc cette bande, elle est, c'est la même bande que l'on soit en région 1, 2, 3. Il n'y a pas de bande satellite sur cette fréquence-là, de bande satellite à radioamateur. Donc ça, ensuite on passe aux 630 mètres. Ça fait des sacrées antennes, la 2222 mètres aussi d'ailleurs, hein. c'est une sacrée antenne. Oui, un peu moins grosse pour celle-là. Ouais, mais bon, voilà, 630 mètres, donc 472 kg à 479 kg. Vous remarquez qu'à chaque fois, il y a un statut et un commentaire. Enfin, les commentaires, je les ai entourés. En bleu, ce sont les commentaires qui sont dans le texte de l'ARCEP ou dans l'arrêté. En rouge, ce sont des commentaires qui sont dans le TNRBF. Voilà, donc il faut aller les chercher un peu plus loin. Et je dirais presque qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des questions là-dessus, parce que ce qu'il faut connaître, c'est les textes ARCEP ou les arrêtés, mais le TNRBF, il ne faut peut-être pas pousser. Voilà. Mais en tout cas, j'ai distingué les deux couleurs. Pas sur mon document, pas sur le cours, mais je l'ai distingué ici sur ce document. Je commence à regarder si je ne vais pas le faire aussi sur le cours PDF. Mais bon, c'est un peu... Des codes couleurs, ce n'est pas aussi facile que ça à gérer. Donc voilà... Et évidemment, il faut connaître pour chaque bande, bah, puisqu'on la question, par exemple, c'est quelles sont les limites de la bande 630 mètres. Donc il faut connaître 630 mètres égale 472 kg. Alors il y a une astuce qui permet de trouver la bande de fréquence par rapport à la longueur d'onde, mais voilà, c'est pas facile. Il faut prendre 300 divisé par la longueur d'onde en mètres, et ça donne la fréquence en mégahertz. Là, en l'occurrence, ce sont des kilohertz. Donc, il ne faut pas se planter, parce que du coup, ça fait 0,472. Hein, si on fait 300 divisé par 630, alors c'est une approximation, hein, évidemment, mais ça permet de voir à peu près où on va se trouver. Vous remarquez que cette bande, elle est partout la même aussi. Le 160 mètres, ça commence à se compliquer. Selon les régions, un, on n'a pas la même étendue de bande, deux, on n'a pas le même statut. On va voir ce que c'est que les statuts tout à l'heure. Statut C, c'est secondaire, A, primaire, B, c'est statut à égalité de droit. Donc il y a d'autres primaires sur la bande. Donc on est égalité de droit. Et donc le cirque, un peu, c'est le 80 mètres et le 160 mètres, où on n'a pas tous les mêmes, enfin, selon la région, on n'a pas déjà et d'une la même, les mêmes bandes, exactement, les fins de bande ne sont pas les mêmes, début de bande sont les mêmes, fin de bande, ce n'est pas les mêmes, et d'autre part, on n'a pas les mêmes statuts. Alors, paniquez pas, à l'examen, la plupart des questions portent sur la région 1 et jusqu'au 2,3 GHz. Évidemment, il y en a quelques-unes sur la région 2, la région 3 et les bandes satellites, mais il y en a tellement peu que je vous propose de faire l'impasse. D'autre part, vous avez vu ici, il n'y a pas 27 bandes, hein, il y en a un peu moins, il y a la suite derrière, puisque, encore une fois, toutes les bandes radio amateurs, c'est jusqu'à 300 gigas. Donc il y a encore Là, je m'arrête à 2,3 gigas. J'ai un deuxième tableau derrière. Mais ce qui est important, c'est de connaître ici cette partie-là. Vous allez vous apercevoir que généralement, tout le monde connaît jusqu'aux 70 cm, parce que ça, c'est à force d'écouter. Vous écoutez toujours les mêmes bandes, donc vous retrouvez jusqu'aux 70 cm. Et après, bah encore, il y a le 23 cm et le 13 cm. Voilà, donc on va pas se les faire toutes, parce que c'est fait un peu de... C'est pas super intéressant, mais ça, il faut les avoir en tête. Et notamment, les bandes décamétriques, je dirais, du 80 mètres ou 10 mètres. Ça, il y a foultitude de questions là-dessus. Donc, si vous vraiment... vous peinez pour apprendre ça, n'apprenez, avoir des réflexes sur les bandes de 80 mètres à 70 cm. Le reste, il y a quelques questions dessus, et puis si vous voulez vraiment tout savoir, et ben, vous apprenez tout le tableau, mais franchement, faut sélectionner et à un moment savoir faire des impasses. Et ne faites pas d'impasse sur les bandes de 80 mètres à 70 cm, il y a beaucoup de questions. Et quand vous apprenez la bande, apprenez aussi le statut. Parce qu'il y a des questions sur les statuts. Et une question très tordue, c'est sur la largeur de la bande. Exemple, 80 mètres, en région 1, c'est de 3,5 à 3,8. Donc ça fait 300 kg. Et la question, c'est quelle est la largeur de la bande? Et évidemment, dans les réponses, il y a par exemple 3,5 mégas. Ce n'est pas la largeur de la bande, c'est le début de bande. Ça. Donc, il faut absolument que vous lisiez la question, parce qu'il peut y avoir des pièges. Ou quelle est la largeur de la bande des 80 mètres? Et donc là, c'est 300 kHz. D'accord? Donc, faites très attention. Petite remarque, toutes les bandes, alors il y a des bandes qui sont un peu plus larges que d'autres, ok, mais toutes les bandes sont les mêmes, quelle que soit la région, jusqu'aux 220 mégas. Et là, 220 mégas, c'est une bande particulière pour la région 2. Il n'y a que la région 2 qui y a droit. 220 à 225. Elle n'est pas allouée en région 1, pas allouée en région 3. Et il y en a une autre qui est plus loin dans les fréquences au-delà. Sinon, toutes ces bandes-là, à quelque chose près, soit elles n'ont pas les mêmes statuts, comme typiquement ici cette bande-là, ou ici le 70 cm, ici n'a pas les mêmes statuts. Qu'est-ce que je peux aussi dire? Les satellites, des bandes satellites, ça commence aux 7 mégas et souvent, pas toujours, mais quelquefois, toute la bande, alors qu'elle est attribuée partout au service amateur, elle n'est attribuée ici au service satellite que sur une portion de bande. Alors que sur le 40 mètres, sur le 20 mètres. C'est en règle générale le même statut que l'on a, ces statuts toujours primaires, sur le 144. Le 50 mégas n'est pas une bande satellite en France, mais ça peut l'être à l'étranger, pas en France. Et puis, on a des cas particuliers où on est autorisé dans un sens ou dans l'autre au-delà du 70 cm. Et évidemment, les quelques questions sur les satellites, eh bien, c'est dans ce coin-là. Tant qu'à faire, c'est plus compliqué, c'est plus simple. Et en plus, le satellite, alors je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, mais en tout cas, par exemple, le satellite en région 3 ne enfin le sens terre vers espace, pas dans l'autre sens évidemment, mais dans le sens terre et vers espace, c'est limité en région 2 et en région 3. Pas espace vers terre, parce que le satellite il ne sait pas s'arrêter quand il change de région. Voilà, donc voilà, vous avez des trucs un peu tordus là. Aussi un point important, la bande 144-146, donc elle est utilisée pour les radioamateurs, mais aussi pour les novices, les ex-F3. Ceux-là n'ont droit qu'à la bande 144-146, y compris en région 2 ou en région 3, où la bande va jusqu'à 148 mégas. C'est-à-dire, quand bien même vous êtes novice, je dis n'importe quoi, en Martinique ou en Guadeloupe, eh bien vous n'avez droit qu'à 144-146, alors que la bande radio amateur en région 2, elle va de 144 à 148. Donc c'est quand même un truc un peu tordu. Voilà. Autre truc tordu, et j'ai vu des questions dessus, c'est que sur le 70 cm, l'émission est interdite dans les Antilles et en Guyane de 433-750 à 434-250. Ça, c'est une fréquence de secours d'Ariane Espace. Et donc, il est interdit de faire de l'émission dessus. Alors, est-ce qu'il y a la même interdiction dans les pays voisins de la Guyane? Je ne le crois pas. Mais par contre, cette interdiction, elle remonte jusqu'à la Guadeloupe et à la Martinique. Mais pas à Saint-Barth, qui est juste après. Ah bon, voilà.
Il
n'y avait pas le bras assez long. Bon, après ce petit tour de géographie, je vais passer à la deuxième partie de mes bandes de fréquences. Vous voyez que ça va jusqu'à 250 giga et le RR définit les bandes jusqu'à 300 giga. Donc il y a encore quelques utilisateurs à la suite. Voilà. Ah, là, il y a un petit rond qui est mal positionné, qui devrait être positionné ici, qui s'est barré un peu. Mais voilà, donc quelques commentaires qu'on va voir rapidement ensuite. Donc là, ce sont les lettres. Donc A, B, C, D. Oui, j'ai pas parlé du D. Il n'y a qu'une seule bande qui est en D, c'est la bande du 10 giga qui est là. Qui est là. Une partie de la bande du 10 giga qui est en statut D. On va voir ce que c'est. Donc le statut A, donc quand vous avez une bande qui commence par entre parenthèses A, comme par exemple celle-là, ici, ou ici, voilà, ça veut dire que le service amateur est primaire. Primaire, ça veut dire que ben voilà, c'est vous qui... en fait, c'est... Enfin, le statut, ça détermine les règles de priorité vis-à-vis des autres services. Et notamment, priorité, donc, protection contre les brouillages. C'est-à-dire que le service primaire, il a droit à la protection contre les brouillages, alors que le service secondaire... Ben, il n'y a pas droit. Tout simplement. En clair, quand vous êtes primaire, alors je ne dis pas que vous faites ce que vous voulez, ou presque, d'autant plus que, alors, on ne le voit pas ici, mais quand on regarde le TNRBFF et le RR, par exemple, pour le 40 mètres ici, ce n'est attribué qu'aux radioamateurs. Donc les radioamateurs, ils se démerdent entre eux pour Enfin, il n'y a pas d'autre service qui est attribué. Donc, il faut faire attention à. Enfin, si on se brouille, on se brouille entre nous. Et l'administration, elle n'en a rien à faire.
C'est une affaire de famille.
Exactement. En revanche, s'il y a un statut C, comme par exemple ici le 10 mégas, eh bien on est secondaire, et donc on peut être amené à ce que l'utilisateur primaire nous demande de cesser les émissions. Concrètement, je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que il prend son micro et il nous demande de dégager? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu.
Alors, quand j'étais militaire à Lille, j'étais en stage là-bas dans un soir à Vauban pour entretenir les émetteurs récepteurs.
Ouais.
Puis on avait réparé les PR-58, les petits
les petits toquis, ouais.
Et on nous donnait en se causant les uns les autres.
Ouais.
D'un seul coup, il y a un émetteur puissant qui est arrivé. Je ne connais pas vos indicatifs, mais veuillez quitter immédiatement cette fréquence.
Voilà.
Ah, ça nous est tombé dans l'oreille, mais alors.
Oui, mais c'était une des fréquences défense.
Ah, pas
des.
Mais.
Mais voilà, concrètement, pour nous, radioamateurs, je ne sais pas comment ça. Quelle forme ça prend. Mais. Voilà, donc. En tout cas, en théorie. Voilà, il faudrait faire en sorte de ne pas causer de brouillage. Le statut B, c'est donc attribution à titre primaire, comme pour le statut A, mais en partage, puisque on n'est pas les seuls à avoir ce statut. Le A, c'est un primaire, mais je dirais exclusif, alors que le B, c'est un primaire en partage. Et donc, on partage ce statut primaire avec d'autres utilisateurs, et selon le principe de l'égalité des droits, et donc ça, l'égalité des droits, c'est prévu dans le RR, article 4.8, le service à égalité de droits ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et ne peut pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par un autre service. En clair, démerdez-vous entre vous. Jusqu'au jour où peut-être le service qui est brouillé en a marre, et si c'est pas de chance, si c'est la défense, eh bien, on est mal parce que peut-être que notre statut en partage risque de devenir secondaire.
Il va sauter.
Ah, il va sauter. Voilà. Statut C, attribution à titre secondaire au sens du RR. Donc les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire. Et ne peuvent prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations primaires. Donc. Et donc l'ERR prévoit que les stations d'un service secondaire ont le droit à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par les stations de ce service ou des autres services secondaires. Voilà, donc. En clair, est-ce que on a droit à la protection contre les brouillages ou pas? Si on est secondaire, on n'a pas droit à la protection contre les brouillages.
Pas de CA ou rien.
Voilà. Et puis D, alors ça c'est le fameux statut de la bande des 10 mégas, qui est une attribution à titre secondaire au sens du RR, c'est-à-dire que dans le RR, il y a bien marqué qu'on est secondaire, mais dans le TNRBF, quand bien même ce n'est pas indiqué dans les notes de bas de page, on est primaire. Là, encore une fois, peut-être que le représentant de la France lors des CMR oublie de lever son doigt en disant « bah oui, moi je voudrais une attribution de remplacement ». Voilà. Ou peut-être que c'est fait exprès, hein, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt ça. Il vaut mieux pas trop se la ramener dans ce genre de conférence.
Il est resté un peu plus longtemps qu'il fallait à l'apéro.
Voilà.
Avant de reprendre la discussion.
Et donc, dans, Dans le texte, il est écrit que les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations. Parce que tout le problème va être, encore une fois, aux frontières. Puisque aux frontières, Belgique, Suisse, Allemagne, dans le RR, le service amateur n'est que secondaire. Donc le problème, encore une fois, va se poser aux frontières, puisque, comme vous le savez, les ondes ne connaissent pas les frontières. Alors, en même temps, le 10 giga, pour faire du DX là-dessus, voilà, c'est pas évident. Ouais. Mais on peut perturber sur quelques kilomètres à la frontière.
Alors, comment ils font à Jersey ?
Ah, bah là, je sais pas. Même chose, hein, c'est. Et enfin, les commentaires. Donc, on a les commentaires qui étaient entourés en bleu. Donc, les trois commentaires. Le premier commentaire, c'est sur la décision 12-1241 modifiée. Et qui parle là de la PIRE, parce que jusqu'à présent on a défini les bandes de fréquence, mais on n'a pas parlé de puissance. La PIRE, on verra ça plus précisément quand on dans la partie technique de la réglementation, quand on parlera de ça. Donc on reviendra sur cette PIRE qui est donc limitée à 1 watt sur les bandes de 1222 mètres et 630 mètres. On en reparlera un petit peu après dans cette partie, puisqu'on va à un moment on va parler aussi des puissances. Et on a droit à 15 watts PIRE sur le 60 mètres. Et évidemment, les stations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation. Et ça, ce sont les dispositions S567 et S580 du RR. Parce que sur ces bandes-là, justement, il y a le service de radionavigation. Et puis, on a deux notes qui sont dans l'arrêté du 2 mars 2021. Donc ça concerne la région 3. Et donc, on a la note F7 du TNRBF qui nous dit que l'attribution de la bande 1810-1830 avec un statut primaire en partage en Polynésie française. Donc, alors que c'est en secondaire dans le TNRBF. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, c'est une dérogation par rapport au RR. Et le B, le service d'amateur n'est pas autorisé à Tahiti et Moréa dans la bande de 1415-1450. Puisque c'est utilisé, j'ai regardé dans le TNRBF, ce sont les faisceaux hertziens transportables de la défense. Et c'est une décision qui finalement est caduque. Alors c'est extraordinaire, c'est que donc c'est sorti dans l'arrêté et du 2 mars 2021 et deux mois après, mai 2021, mise à jour du TNRBF. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, cette disposition a disparu. Donc, à peine le texte est publié, il est déjà caduque. Donc, comme quoi, il y a une bonne anticipation dans les services de la NFR, enfin, tout au moins de la DGE, puisque c'est eux qui ont tondu le texte de l'arrêté. Voilà, une grande anticipation. Donc ils ont mis ça, mais ça sert à rien, puisque, à mon avis, c'était tout ce qui avait lié aux atolls là, où il y avait des essais nucléaires qui ont été démilitarisés. Hein. Il y a de ça quelques années déjà. Et donc, du coup, ces faisceaux hertziens, ils n'avaient plus lieu d'être.
Le dernier tir, c'était du temps de chien.
Oui, mais il y en a eu quelques... Enfin, ils avaient gardé les installations.
Oui.
Ils avaient gardé les installations. Et là, elles ont été démantelées il y a 4, 5, 6 ans, par là.
Il a fallu décontaminer, d'abord.
Oui, oui, ben, il a fallu décontaminer, oui, bien sûr. Et enfin, on a des commentaires, ceux qui étaient en rouge, où là, ce n'est ni dans la décision, ni dans l'arrêté, et on les retrouve dans le TNRBF. On en a déjà parlé. Le 2, c'est le ministère de la Défense qui a quelquefois des besoins avec une puissance de 12 dB, donc c'est environ 15 watts PAR, voilà, pour faire ou 10 watts dans un dipôle, grosso modo, pour faire simple. Donc c'est la note F17, et puis mes fameuses bouées acoustiques en mer, ça c'est la note F35. C'est les deux qu'on a lu tout à l'heure pour le 144. 204 à 6 gigas, le service d'amateur par satellite est autorisé à condition qu'il ne brouille pas. Voilà. Et si ça brouille, eh bien, il faut faire en sorte que le satellite soit immédiatement arrêté. Donc il y a ces mes fameuses commandes d'arrêt des satellites que l'on doit avoir systématiquement sur tous les satellites. Aux Antilles et en Guyane, donc aux Antilles, c'est Guadeloupe, Martinique, le service d'amateur n'est pas autorisé dans la sous-bande 433-75, 434-250, et ça s'écrit dans le TNRBF et pas repris dans la décision ARCEP.
Pourquoi envoyer
c'est très con.
Ariane dans la base.
Voilà. Et enfin, on a une exception qui est la bande 81 à 81,5 giga, qui n'est pas citée dans le TNRBF, mais elle est ouverte au trafic, puisqu'il y a une note dans le TNRBF qui le permet, et la disposition S5561A, c'est une attribution supplémentaire demandée par la France, donc ça faisait partie des notes de bas de page de la France. Enfin, de la France et sûrement peut-être d'autres pays, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même... Il y a peu de questions sur ces commentaires.
Bah, tant mieux.
Tant mieux. Mais, voilà. En revanche, il y en a quand même un peu sur la PIRE des bandes de 2222 mètres, 630 mètres et sur le 60 mètres. Donc les questions, elles vont porter sur quoi ? Un, sur l'étendue des régions limitées, mais on y reviendra quand on parlera des indicatifs, puisque les indicatifs, chaque département ou collectivité territoriale d'outre-mer a un indicatif différent de la France continentale. Et donc, dans les questions à NFR, on demande quelle est la région, par exemple, pour la Réunion ou la Martinique. Voilà, donc il faut avoir une petite idée de cette cartographie. On revient à la carte, là, il faut se rappeler où sont toutes nos petites... donc ici, tout ce qui est aux Antilles, Guyane et tout ça, là, c'est bon. C'est région 2, y compris Saint-Pierre et Miquelon, qui est, à l'embouchure du Saint-Laurent, par là. Voilà. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, c'est en région 3. Juste un truc... ici, on a comment ça s'appelle ? Clipperton, une petite île au large du Mexique, qui est rattachée à Tahiti. Il n'y a pas d'habitants là-dessus. Hein. Et donc, elle est en région 2.
Dans le coin des terres là.
Ouais, en fait, elle est au large du Mexique, mais pas très loin du Mexique. Mmh. Donc, elle est en région 2. Et puis, il y a tous les territoires, les Australes et Antarctiques français, Donc les Bouvelles, les Kerguelen, etc., qui sont dans ce coin-là. Et puis du coup, ben, on ne sait pas trop. La Réunion, en tout cas, elle est proche de Madagascar, donc elle reste en région 1. Elle n'est pas loin de la région 3, je suis d'accord, mais elle reste en région 1. Et il doit y avoir de mémoire ici quelques îles là-dedans. Je ne sais plus si c'est Amsterdam ou Kerguelen qui est en région 3. Elle est de l'autre côté de la ligne. Bah, jusqu'à présent, j'en ai pas vu. Mais bon. Non, mais après, c'est connaître un peu la géographie quand même. Et savoir où sont les quelques territoires d'outre-mer que nous avons un peu de par le monde. Ah, ici. Donc on en était là. Donc les régions de l'UIT, on reviendra dessus encore une fois quand on parlera des indicatifs. Les limites de bande, évidemment. Les largeurs de bande, ça c'est le piège. Donc c'est bien lire la question. Est-ce que la question porte sur les limites ou une des limites de la bande, la limite haute ou la limite basse? Ou est-ce que c'est la largeur? Évidemment, le piège, c'est entre kHz et mégahertz. Lisez deux fois la question et les réponses avant de répondre bêtement. Il faut connaître la longueur d'onde d'une bande, parce que voilà, la question, c'est quelles sont les limites de la bande des 2 mètres. Donc, si vous n'avez pas le rapprochement, alors... On verra ça quand on fera aussi la partie technique, mais le système simple, c'est prendre 300 divisé par la longueur et ça donne la fréquence en mégahertz, ou inversement, 300 divisé par la fréquence en mégahertz et ça donne la longueur d'onde en mètres. Alors ça donne une idée, hein. C'est pas précisément. Enfin, tout au moins, quand on me dit la bande des 2 mètres, c'est 2 mètres, virgule quelque chose. Alors. 300 divisé par. Et ça marche dans les deux sens.
À la longueur d'onde, c'est ça?
Ouais.
En quoi?
En mètres. En mètres. Et ça donne la fréquence en mégahertz. Et inversement, 300 divisé par la fréquence en mégahertz, ça donne la longueur d'onde en mètres. Le statut des bandes, donc les fameux ABC, l'AD, il y en a très peu, donc ABC, tel que défini dans les décisions. Le nom du statut, c'est-à-dire que A, c'est primaire, B, égalité de droit, C, secondaire, et D, dérogatoire. C'est-à-dire qu'on peut demander soit la lettre du statut, soit à quoi correspond cette lettre. Et puis, pour les bandes satellites, quelques questions quand même. Savoir dans quel sens c'est, la largeur. Les mêmes questions que pour les bandes classiques. Sauf qu'en plus, on peut demander le sens. Savoir si c'est bilatéral ou montant ou descendant. Et peu de questions, donc, sur les fréquences supérieures à 1300 mégas, les régions 2, les régions 3... Quelques questions, malheureusement, sur les satellites. Mais je vous propose de faire peut-être l'impasse. À vous de voir. On en arrive aux puissances autorisées. Donc les puissances, en fait, elles sont assez simples. On va commencer par le basique, l'ex classe 3. Donc les F0 n'ont droit qu'à 10 watts. Et quand on parle de puissance, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est la puissance à la sortie de l'émetteur. Vous pouvez mettre derrière l'émetteur n'importe quelle antenne qui va vous donner du gain. Le gain n'est pas limité. La réglementation, elle fixe la puissance en sortie d'émetteur, mais pas le gain des antennes. Donc, puissance, les F0 ont droit à 10 watts sortie d'émetteur, et les autres, donc tous les F4 et les autres indicatifs auparavant, tous ont droit à 3 puissances différentes. Les fréquences inférieures à 28 mégas, 500 watts, sur la bande des 10 mètres, donc de 28 à 30 mégas, enfin 28 à 29,7 en fait, 28 à 29,7, 250 watts, et au-delà de 30 mégas, 120 watts, uniquement 120 watts. Et donc, auparavant, on avait des classes d'émissions autorisées, donc ça c'est antérieur à 2012, maintenant, toutes les classes sont autorisées, sauf aux opérateurs de l'ex-classe 3, on l'a déjà vu, où ils n'ont droit qu'à 6 classes d'émissions, donc A1A, A2A, A3E, G3E, J3E et F3E, on l'a déjà vu quand on a parlé des classes d'émissions la semaine dernière. Sur la définition de cette puissance à la sortie de l'émetteur, en fait, on va parler là de puissance en crête maximale. C'est quoi ça? Petite explication de texte. J'agrandis mon image et je la recentre. Lorsque je suis en modulation d'amplitude ou en BLU, par définition, comme je module mon amplitude, je module ma puissance. Et donc, la définition, c'est puissance en crête maximale. Donc, quand je suis ici en AM, je prends ici ce que j'appelle la pointe de l'enveloppe. La fameuse, alors ça s'appelle en anglais peak envelope power, ou la peak-to-peak, et en français, c'est donc la crête à crête, ou la puissance en pointe de l'enveloppe. Et donc, c'est cette puissance ici maximum. C'est pas la puissance, parce que ce que va sortir le wattmètre, c'est une puissance moyenne. L'aiguille, elle va faire que de bouger, et elle, finalement, elle va se retrouver à une valeur moyenne. Sauf si vous avez un système à l'intérieur de votre wattmètre qui va vous indiquer le pic. Mais là, c'est un bricolage qui permet d'obtenir ça.
Mémoriser le pic.
Mémoriser le pic. Avec tout simplement un condensateur. Tout simplement. Mais...
S'il y a une assez grosse capa, ça va rester un bon moment.
Et voilà, et s'il y a une grosse capa, ça va rester un moment au maximum, malgré qu'on ait coupé l'émission. Mais... Voilà, peu importe, en tout cas, ici, quand je suis en AM ou en BLU, je m'intéresse, moi, à la pointe ici, au maximum. Quand je suis en morse ou en FM, ma puissance est toujours la même. En morse, j'aimais ou j'aimais pas. Donc, c'est cette puissance que j'aimais que je vais mesurer. Et même chose en FM, ma puissance est toujours la même, ce qui bouge, c'est la fréquence. Et donc, ici... ma puissance est toujours la même. D'accord? Et donc, la définition de cette puissance maximum, elle est définie par une norme UIT, et c'est tout bête, hein, c'est la moyenne de la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en fonctionnement normal au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation. Donc c'est bien amplitude maximale de l'enveloppe de modulation.
Voilà.
Et comment mesure-t-on cette jolie puissance, enfin cette moyenne de puissance, avec cette fameuse recommandation, la UIT, la SM326-7, elle préconise l'utilisation de deux tonalités non harmoniques pour mesurer la puissance des émissions modulées en amplitude. C'est mon fameux générateur de ton. Donc le générateur de ton, pour l'UIT, il sert essentiellement à mesurer la puissance de sortie d'un émetteur BU ou AM. Et pas à faire des réglages. Alors, nous, radioamateurs, en plus, on fait des réglages notamment pour la BU, mais au départ, ce générateur de ton, qui n'a que nulle part d'ailleurs on appelle générateur de ton hein, dans les textes internationaux, on parle juste de deux tonalités non harmoniques, et c'est bien la définition du générateur de ton. Et c'est donc c'est ce qui permet de mesurer la puissance des émissions modulées en amplitude. Et c'est pour ça que l'ANFR dit que c'est un matériel qu'on doit utiliser, qu'on doit avoir dans les stations radio pour pouvoir mesurer la puissance, puisque cette puissance elle est limitée. Donc encore une fois, la règle... Ah, j'étais un peu rapide. La réglementation ne limite pas le gain des antennes. Alors, sauf quand on a une limite de PIRE, puisque la PIRE, c'est finalement la puissance de l'émetteur multipliée par le gain de l'antenne,
ouais.
Moins les pertes, évidemment, qu'on peut avoir dans la ligne d'alimentation dans le coaxial, mais... Pour faire simple, c'est la puissance en sortie d'émetteur multipliée par le gain de l'antenne. Le gain, non pas en décibels, mais en rapport arithmétique. Et donc, sur ces trois bandes, là, le 136 kg, le 472 kg et le 60 mètres, eh bien, du coup, il faut faire attention à ce gain des antennes. Et que si on a une antenne à gain, eh bien, il faut faire en sorte que la puissance de sortie d'émetteur soit permette cette limite de PIRE. Alors, juste pour information, sur 136 kHz, on va 136 kHz, ça fait 2222 mètres de longueur d'onde, donc le quart d'onde, le système rayonnant, ça doit faire 500 mètres. Et 500 mètres de haut. Parce que si vous faites vos 500 mètres au sol, il va pas, enfin, on va pas avoir un rendement aussi extraordinaire que ça. Donc, ça vous donne une idée de la taille de l'antenne qu'il faut. Et quand on parle du feed, il y a aussi le plan de sol qu'il faut aménager en conséquence. Donc, un plan de sol avec... des radiants autour qui font 500 mètres de circonférence plus un élément radiateur de 500 mètres de haut, ça va limiter quand même, je pense, le nombre de personnes qui pourraient potentiellement avoir un rendement sur ce type d'antenne. Donc c'est pour ça que je dis que sur 136 kHz, avec le matériel que l'on peut avoir, on atteint difficilement un watt PIRE, puisque le rendement, il est très mauvais. Plus l'antenne est courte, moins le rendement est intéressant. Sur 472 kg, ce qui fait 630 mètres de longueur d'onde, 150 mètres, ça commence... c'est plus réalisable, et voilà, si on a une grosse puissance... Eh bien, on pourrait atteindre ces 1 watt PIRE. Encore une fois, on n'a droit qu'à 500 watts en sortie d'émetteur. Donc, mon émetteur sur 472 kg, imaginons qu'il fasse 500 watts sortie d'émetteur, eh bien, la puissance, si on atteint un rendement de 1%, eh bien, on peut l'atteindre. Et un rendement de 1% sur cette fréquence, c'est pas complètement illusoire. Autant c'est difficilement atteignable sur 136 kHz, autant sur 472, pourquoi pas. En revanche, sur le 60 mètres, là, il n'y a pas de débat, les 500 watts, vous les aurez très facilement, et une antenne à gain sur le 60 mètres, ça se fait très facilement. Donc attention à cette bande, où la puissance, la PIRE, est limitée à 15 watts. Et 15 watts, ça correspond à peu près à 10 watts dans un dipôle. Et je parle que du dipôle, je ne parle pas d'une antenne Yagi. Donc attention à cette PIRE, et notamment sur la bande des 60 mètres. On en arrive à, puisqu'on est dans les puissances, vous n'êtes pas sans savoir que il y a des tas de gens qui sont contre les antennes, les puissances, etc. Et donc, il y a des textes qui sont sortis, et notamment le décret 2002-775, très important ce décret, qui a été pris en vertu de l'article 32 du Code des postes et communications électroniques, qui parle des exigences essentielles. Et ce décret fixe la valeur limite d'exposition du public au champ électromagnétique. Concrètement, et ça c'est valable pour tout système d'émission, il faut que quand on mesure le champ électromagnétique sur le domaine public, donc dans la rue par exemple, il doit avoir des valeurs limites, enfin il y a des valeurs limites à ne pas dépasser. Alors, ces valeurs limites, elles sont ici. Donc 87 volts par mètre pour les fréquences inférieures à 1 méga. Ensuite, alors ici mon échelle elle est logarithmique. Donc c'est pour ça qu'on a cette forme ici. Normalement, ça devrait être linéaire. Sauf que l'échelle de mes fréquences, là je l'ai mis logarithmique pour qu'on y voit un peu plus clair. Hein, vous voyez, ça va très vite. Hein. Et ça va jusqu'à ici 300 gigas. Donc là, c'est l'ensemble du spectre radio qui commence ici à 9 kHz et qui finit à 300 gigas. Donc voilà la forme de ce niveau de limitation en termes de volts par mètre. Donc ça se mesure hein, avec des champs mètres. Un champ mètre, ça ressemble alors concrètement, ça ressemble un petit peu à un micro. Enfin, physiquement, l'instrument de mesure, ça ressemble à un micro, et donc il y a un système qui permet en dessous de mesurer selon la fréquence la tension sur la tension enfin, générée par le système d'émission. Donc ici, on a ici 87 volts. Ça reprend ici, de mémoire, ici c'est 5 ou 10 mégas. Non, c'est entre 10 et 400 mégas. Ici, je dois être à 28 volts. Et au-delà de 2 gigas, ici, de mémoire, c'est 61 volts. Ouais, 61 volts par mètre. Donc, alors pourquoi, vous me direz, des valeurs complètement improbables du style 28 volts 87 volts et 61 volts, eh bien, alors, on va revenir à l'origine du truc. L'INSIRP, c'est un organisme qui a fait des études dans les années 60-70 et qui a déterminé par expérience qu'un rayonnement électromagnétique permettant une absorption de puissance de 4 watts par kilogramme provoquait au bout de 30 minutes d'échauffement du corps humain un échauffement inférieur ou égal à 1 degré. C'est-à-dire que si vous êtes dans un champ où il y a 4 watts par kilogramme, eh bien, vous avez, enfin, votre corps augmenterait sa température de 1 degré. Et en dessous de cette puissance, eh bien, on n'observe pas d'effet physiologique significatif Donc en fait, ce que l'on mesure là, c'est uniquement les effets thermiques du champ électromagnétique. Hein, c'est typiquement ce qui se passe dans un four micro-ondes. Vous avez des ondes qui agitent l'eau, et l'eau se met, peut-être pas à bouillir, mais au moins à monter en température. Eh bien, c'est exactement ce système-là qu'a déterminé par expérience l'INSERM. Et donc, on en déduit qu'il ne faut pas aller au-delà de 4 watts par kilogramme. Donc, l'INSERM a déterminé ce 4 watts par kilogramme, qui se calcule aussi très bien de manière... parce que 4 watts par kilogramme, ça fait tant de calories, et tant de calories, ça fait augmenter de temps de degrés un liquide, enfin de l'eau. Et compte tenu que notre corps est composé essentiellement d'eau, à 70%, eh bien, notre corps s'échauffe lorsqu'il est soumis à des champs électromagnétiques. À partir de ce 4 watts par kilogramme, on a défini, pourquoi, je ne sais pas, un coefficient de sécurité de 50. Donc ce qui veut dire que, en exposition permanente, on ne peut avoir au-delà de 80 milliwatts par kilogramme. Et ce 80 milliwatts par kilogramme, je le traduis, puisque je suis un peu mathématicien, et donc je traduis ces 80 milliwatts par toutes mes formules là, et j'en déduis que ça me fait 28 volts par mètre carré. Et ces 28 volts par mètre carré divisé par l'impédance de mon milieu de propagation, donc ça c'est de la technique, mais on va y arriver quand on fera quand on sera dans la partie technique. J'arrive ici avec mes 2 watts. Donc mes 28 volts là, ça correspond à 2 watts. Et donc à une densité de puissance de 1,6 watts par mètre carré si j'ai 2000 watts à 10 mètres. Enfin, tout ça, on verra ça quand on parlera des antennes. Mais tout ça, c'est lié. Et donc quand on vous donne ces valeurs-là, elles ne sortent pas comme ça d'un chapeau. Ces 87 volts, ces 28 volts et ces 61 volts, ça va provenir de calculs liés à l'impédance du milieu de propagation et à la capacité d'absorption du corps humain. Donc on en arrive là. Ce qui est très important à se souvenir, c'est ces tensions. C'est ces tensions qui permettent de mesurer ici l'exposition de ces fameux 4 watts. Alors juste histoire de rigoler un peu, c'est que 80 milliwatts par kilogramme, on voit bien qu'on a un petit peu de mal avec notamment les téléphones portables qui ont grosso modo entre 2 et 4 watts. Et donc, eh bien, on a fait une entorse à ce coefficient de 50. Et on a dit que parce que la tête et le tronc étaient bien irrigués par le système sanguin, eh bien, on pouvait se contenter d'un coefficient de 2, et que pour les membres, comme c'est encore mieux irrigué, eh bien, on peut se contenter d'un coefficient de sécurité de 1. Donc, moralité, on peut avoir un téléphone qui fait 4 watts dans la main, ça ne pose pas de problème, et on peut l'approcher de la tête, et dans ce cas-là, ça fait 2 watts, ça ne pose pas de problème. Et ces fameux 2 watts par kilogramme, ces watts par kilogramme, c'est le fameux DAS dont on vous rebat les oreilles pour un téléphone portable. Donc ce DAS, c'est le décret de 2275. Et ça a été donc déterminé de cette manière-là. Et compte tenu, nous, de la puissance de nos émetteurs, et que généralement, ce que l'on vise, ce n'est pas le trottoir ou la rue, c'est plutôt l'horizon, eh bien, nos systèmes d'antenne, compte tenu de la puissance que nous avons, eh bien, on est quasiment tout le temps en dessous de ces niveaux. Ça se calcule très bien, mais on est souvent en dessous de ces niveaux. Voilà, on en parlera une autre fois, mais voilà. Autre chose, l'ARCEP peut prévoir des restrictions des conditions techniques d'utilisation, notamment la puissance, pour éviter les brouillages préjudiciables ou protéger la santé du public. Ça, c'est valable, pas spécialement pour les radioamateurs, ça s'adresse à toutes les stations radioélectriques. Donc les restrictions, en termes de puissance en règle générale, c'est pour éviter les brouillages et protéger la santé. En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'ARCEP. Ça, c'était une disposition prise antérieurement à 2012 qui n'a pas été reprise. Mais comme on a toujours cet article du CPCE, l'ARCEP pourrait prévoir des restrictions. Alors comment ça va être notifié, je ne le sais pas. Et enfin, l'ANFR, dans le cadre de ses missions relatives à l'instruction de cas de brouillage, peut être amené à demander à l'utilisateur d'une station des informations concernant les logiciels et les protocoles utilisés. Donc, si l'ANFR vous pose la question de du protocole que vous utilisez ou du logiciel pour les modes numériques, eh bien, c'est dans le cas de l'instruction de brouillage. Et uniquement dans ce cadre-là. Quelques questions, alors je ne sais pas trop où le mettre, mais comme on a des servitudes, je l'ai mis à cet endroit-là, ça c'est lié un petit peu à la puissance et aux antennes. Donc on a certains services de l'État sont protégés des perturbations et des brouillages, et donc il y a ce que l'on appelle des servitudes. C'est-à-dire que dans des zones bien précises, il est soit demandé de faire attention de ne pas perturber, ou carrément il est interdit d'émettre. Donc, ces stations radioélectriques, elles sont très spécifiques. Et voilà, on va en venir plus en détail dessus tout de suite après. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on a un centre de réception, on a donc des limites de ce centre de réception, et la zone de garde dans laquelle il est interdit d'émettre ne peut excéder 1000 mètres au-delà du périmètre du centre de réception de radioélectrique. On est bien d'accord que c'est un centre de réception. Les centres d'émission, on s'en fout complètement, puisque par définition, ils n'ont pas besoin d'être protégés, eux. Ce sont les centres de réception qui ont besoin d'être protégés. Et donc, dans cette zone de garde, il est interdit de mettre en service du matériel risquant de perturber les réceptions radioélectriques du centre. Donc, il est interdit d'émettre, en clair. Petite information. Alors, donc ça, c'est le texte et les questions qui sont posées à l'examen. Quelques informations complémentaires. En France, on a environ 5000 sites qui sont protégés. Alors, premièrement, contre les obstacles. Mais nous, on n'est pas trop... on n'est pas trop impacté. Les obstacles, c'est quoi? C'est quand il y a un faisceau hertzien, faire en sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui construise, je dis n'importe quoi, une tour au milieu d'un faisceau hertzien. Parce qu'évidemment, le faisceau hertzien, il ne va plus trop bien marcher si on colle un bâtiment au milieu de la trajectoire. Donc ça, ce sont les protections contre les obstacles. Et puis, il y a les protections contre les brouillages. Et donc là, c'est interdire d'émettre ou de mettre en service du matériel risquant de perturber ces stations. Les stations concernées par cette limite de 1000 mètres, elles sont très spécifiques et elles sont au nombre d'environ 200 en France. C'est ce qu'on appelle des installations de première catégorie. Et donc, celles-là, elles ont donc une zone de garde qui ne peut excéder 1000 mètres. Toutes les autres n'ont pas de zone de garde. Elles ont juste un périmètre dans lequel le service peut éventuellement demander d'utiliser le matériel, mais voilà. Alors que là, il est interdit de le mettre en service. Ces sites-là sont, ça se fait pas aussi facilement que ça. Donc il y a des consultants, des commissions où on a à la fois la NFR, le CSA et l'ARCEP qui participent à ces commissions et qui instruisent les dossiers d'implantation de ces sites. Donc c'est très 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 réglementé, très compliqué. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des belles antennes sur un terrain militaire que automatiquement ces installations relèvent de la première catégorie. Ça peut être aussi très bien des installations d'émission. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de les protéger. Et de même, ce n'est pas parce que vous vous trouvez à côté d'une gendarmerie que c'est impossible d'émettre à plus de 1000 mètres de la gendarmerie. La gendarmerie, elle n'a pas vocation à être un site de première catégorie. Enfin, n'importe, ça n'existe pas. Et enfin, il y a même pas un an, en mai 2021, il y a eu alors je ne sais plus si c'est un arrêté ou une décision, sûrement un arrêté, qui a déclassé à peu près un millier de sites. Alors ils n'étaient pas tous en première catégorie, mais voilà, il y en a eu qui ont été déclassés. Pourquoi ? C'est que, en fait, ces servitudes, les formalités, elles sont tellement compliquées à mettre en œuvre pour obtenir une servitude que quand la servitude est obtenue, eh bien, on la garde très longtemps. Voilà, au cas où on veuille la réutiliser. Et même si le site a été désaffecté. Donc, ces zones de protection, elles ne sont pas toujours à jour. Code de l'urbanisme, comme on est dans... Puisque, je rappelle, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais ces servitudes, elles sont reliées au code de l'urbanisme, puisque ces servitudes sont rappelées dans ce que l'on appelle le plan local d'urbanisme. Et comme on est dans le code de l'urbanisme, ben on va parler des antennes, et notamment, pas des antennes, mais des pylônes, des supports. Et donc, le code de l'urbanisme, il prévoit que toutes les constructions doivent faire l'objet d'un permis de construire, sauf s'il s'agit d'ouvrages de faible importance ou d'une modification de l'aspect. Et dans ce cas-là, il faut faire une déclaration préalable. La déclaration préalable, elle va concerner les poteaux et les pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol, très important. Je ne l'ai pas souligné, mais c'est important, et les installations qu'ils supportent, notamment les antennes verticales. C'est-à-dire que quand vous mesurez votre pylône, mais aussi l'antenne qu'il y a dessus. Et si elle dépasse 12 mètres, déclaration préalable très fortement préconisée. moins de 12 mètres, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, tout simplement parce que ça permet d'éviter le recours de tiers. Avant 2007, on avait aussi les antennes de plus de 4 mètres et les réflecteurs de plus d'un mètre de diamètre. Depuis 2007, on n'a plus cette obligation. Quelques conseils pour formuler votre demande préalable. Alors déjà, Edune, j'ai fait tout un article sur le site internet du Radio Club, donc qui est sur, je vous ai mis le lien ici, que vous trouvez très facilement sur notre site internet avec les podcasts. Et d'autre part, on a enregistré une vidéo sur ce sujet, et uniquement sur ce sujet, donc sur comment formuler une demande préalable au mois d'avril 2021. C'est toujours sur YouTube et je l'ai mis ici. Il y a aussi sur le site, sur les podcasts, je ne l'ai pas effacé. Voilà, donc il y en a pour trois quarts d'heure à peu près d'explications. Donc là, vous aurez tout, beaucoup plus que là, on ne fait que d'effleurer le problème. Encore une fois, pour votre demande préalable, prenez compte de la hauteur de l'antenne verticale sur votre pylône. Important, si vous installez votre pylône sur votre pavillon, par exemple, quand bien même il ne fait pas 12 mètres de haut, vous modifiez l'aspect de votre pavillon ou de votre bâtiment en règle générale. Et comme vous modifiez l'aspect de votre bâtiment, ça nécessite une déclaration préalable. C'est très con, mais il y a beaucoup de stations, de radioamateurs qui se sont fait emmerder par des voisins un peu chiants, parce qu'ils avaient modifié l'aspect de leur construction sans faire une déclaration préalable. C'est pour ça que voilà, c'est un peu difficile, mais voilà. Et si vous installez votre pylône sur un immeuble, donc même si vous avez un tout petit bout de pylône, il y a de fortes chances que la hauteur au-dessus du sol dépasse les 12 mètres. Et donc, dans ce cas-là, votre petit bout de pylône qui fait que 3 mètres, comme il sera sur un bâtiment qui fait déjà 15 mètres, eh bien, déclaration préalable. En plus, par définition, ça change l'aspect du bâtiment, et donc, déclaration préalable. Alors, une déclaration préalable, c'est pas si compliqué que ça, mais ça nécessite un petit peu de paperasse, et surtout, il faut, notamment si vous êtes en copropriété, avoir l'aide d'un service juridique qui va vous préparer un dossier qui doit être irréprochable, parce que s'il y a des failles dans votre dossier, ça risque de prendre beaucoup de temps pour faire machine arrière. Voilà, donc il faut avoir absolument, notamment si vous êtes en copropriété, avoir monté un dossier sur lequel personne ne pourra venir dessus, sachant que le droit à l'antenne, c'est écrit dans les textes français. C'est pas valable dans tous les pays, ça, notamment en Belgique. Mais en France, pour une fois, on a une loi qui est pour nous. Donc, faut faire en sorte de faire comme indiqué dans la loi. Petit point sur les gens qui n'ont pas de chance, c'est-à-dire, alors, ceux qui veulent installer une antenne sur un immeuble classé, j'y crois pas trop. Et donc, ces bâtiments, évidemment, ils sont inscrit à l'inventaire des monuments historiques, donc difficile de faire quelque chose dessus. En revanche, dans un périmètre classé, c'est-à-dire les immeubles qui sont situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé, ça ne veut pas dire pour autant que votre pavillon est classé, mais si vous êtes à moins de 500 mètres du château de Trucmuche, eh bien, vous êtes certain d'être dans un périmètre classé. Et là, il vous faut absolument avoir l'accord, un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Immeuble classé, ça peut être aussi, par exemple, une église, ou, enfin, que sais-je, enfin, tout ce qui est bâtiment classé. Vous avez aussi les secteurs sauvegardés, les petits centres-villes, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc là, il y a plein de choses qu'il faut absolument regarder avant de commencer à avoir l'idée d'installer votre antenne et peut-être même d'acheter votre maison. Alors, c'est pour ça que le ministère de la Défense à Paris a mis toutes ses antennes sous un voile. Non, je pense que c'est surtout pour que ce soit pas trop visible, parce que je pense que le ministère de la Défense a tout ce qu'il faut recours pour que son bâtiment, enfin pour que ses antennes soient autorisées. Parce que le ministère de la Défense, il n'arrive pas à obtenir un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ils sont pas bons. Et donc, ces zones-là, immeubles classés, périmètres classés, secteurs sauvegardés, zones de protection, et puisque l'on a vu avant, les zones de garde, les zones aussi en cas de... De la protection contre les obstacles, toutes ces zones-là sont écrites dans le PLU. Et le PLU, c'est le document d'urbanisme de toutes les villes. Ce PLU, il est souvent publié sur Internet, en tout cas, il est public. Et donc, vous pouvez le récupérer très facilement. Et puis, de toute façon, quand vous achetez un bien, quand vous le louez, non, mais quand vous achetez un bien, en règle générale, il y a le on vous dit ce qu'il y a dans le PLU. Et puis, de toute façon, vous allez à la mairie, au service d'urbanisme de la mairie, et le service d'urbanisme de la mairie est obligé de vous le montrer. Donc, vous devez avoir toutes ces informations-là sur le PLU. Pour votre information, les installations temporaires, donc quand vous êtes en portable, il n'y a pas de déclaration à faire, évidemment, mais... Attention, parce que les zones de servitude, elles existent tout le temps, y compris pour les installations portables ou en mobile. Donc attention quand même. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la loi 66-457, qui est une vieille loi, c'est la loi de 66, elle reconnaît le droit à l'antenne pour les radios amateurs. Et ça, cette loi, elle s'applique aux propriétaires, et aux locataires ou tout autre occupant, même à titre gratuit. Donc à partir du moment où vous avez votre certificat d'opérateur radio-amateur, vous pouvez installer une antenne sur le toit d'un immeuble collectif. Évidemment, il faut que ce soit fait dans les règles, etc. Mais, et peut-être avec une déclaration préalable. Mais... rien ne vous en empêche, en tout cas, pas un règlement de copropriété qui empêcherait d'installer une antenne sur le toit de l'immeuble. Histoire de savoir un peu ce que c'est qu'un PLU, j'en ai trouvé un sur Internet. Alors là, les pauvres gens qui habitent dans ce patelin-là, c'est un patelin qui s'appelle Talard, c'est au sud de Gap, c'est une petite bourgade, très sympathique. Très sympathique, puisque on a un château, une église, un aérodrome. Mais comme on a un château, une église, un aérodrome, eh bien on a plein de zones de servitude. Je fais un petit zoom. On a donc un château qui est ici, une église classée. Alors évidemment, le château, même s'il est en ruine, il est classé. L'église, elle est classée, et donc autour, on a en orange là, donc ça c'est le périmètre autour, mes 500 mètres autour de mon monument historique, mais on a été plus loin puisque on a défini ici ce qui est quadrillé, là, en quadrillé un peu en orange. Là, c'est une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, une SPAP. Le site classé, donc c'est les cercles orange, là, les monuments historiques qui sont bien là, les deux là. Et alors là, il y a un truc bleu, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas été regardé. AS1, ça c'est encore. Alors tout ce qui est A, c'est architectural. Et tout ce qui est pour nous intéressant P, c'est protection contre les perturbations. Donc P comme perturbation. Et donc PT1, ici on a l'aérodrome, donc ici la tour de contrôle de l'aérodrome, qui elle est protégée, puisqu'elle reçoit les appels des avions, tant qu'à faire c'est protégé. Ici on a la piste de l'aérodrome, et donc on a une zone de garde autour de l'aérodrome de garde, de Gap, pardon. Et donc il faut demander une autorisation, je suppose à la DGAC, pour émettre dans ce périmètre. Donc, celui qui a acheté son petit pavillon, je dirais à la fois dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, là, ce qui est quadrillé en marron, et ce qui est hachuré en bleu, eh ben, il a tout gagné, puisqu'il faut qu'il demande des attestations dans tous les sens pour pouvoir utiliser sa station radio. Voilà, ça c'est le cas extrême, mais voilà, et ça, ce document-là, j'ai trouvé sur Internet. Donc vous devez trouver votre le PLU. Voilà, alors donc c'est dommage parce que c'était un petit saint. J'ai trouvé la photo du patelin, que je vous montre quand même, la photo du patelin quand même, parce que c'est dommage d'habiter un si beau petit village. Là on voit le château, hein, on voit bien le château, même s'il est en ruine, on voit bien le château. Et donc au pied du village, là tout autour, eh bien cette fameuse zone de protection paysager et architecturale. Alors, comment on connaît les zones? Eh bien, comment on connaît les zones? Encore une fois, grâce au PLU, il faut aller chercher sur Internet les informations. Avec le Radio Club KIT, on a activé le château de Tallard dans le cadre de la journée des châteaux forts en 2016, mais en portable. Alors, effectivement, vous avez pu l'activer, puisque le château de Tallard, il n'est pas dans la zone de garde de l'aéroport, mais vous avez fait du portable, donc pas besoin de demander à l'architecte des bâtiments de France sa bénédiction. Voilà, puisque vous êtes en portable. Alors, les questions d'examen, bon, on les a déjà un peu évoquées. Donc, par exemple, la limite de la bande des 14 mégas en France métropolitaine, il faut la chercher. Et donc c'est 14 à 14,350, c'est la troisième. Limite de la bande des 23 cm. Donc là, il faut transformer mes centimètres, largeur de la bande des 23 cm. Donc il faut transformer mes 23 cm en longueur d'onde. Et donc là, de mémoire, c'est 60 mégas. Puisque c'est un 240 à 1300. Donc après, il faut faire la soustraction, hein, tout simplement. Quelle bande n'est pas attribuée en exclusivité au service amateur? Elle, donc, de laquelle de ces bandes? C'est 10 à 1050 qui est en statut secondaire. Toutes les autres sont en primaire. Là, il faut le savoir. Hein. C'est... Malheureusement, j'ai pas de système de formule. C'est du par cœur. Et ça doit être un réflexe. Voilà. Donc, ça fait partie, ça, du rabâchage qu'on doit faire quelques semaines, quelques mois, enfin quelques semaines plutôt, avant de passer l'examen, faire des tas de séries autour de ces trucs qui reviennent souvent. Statut de la vente 18068-1868, de mémoire, c'est un statut A. On va vérifier. Je suis pas trop mauvais. Voilà. Et là, évidemment, le piège, c'est 60 kHz et non pas 60 mégas. Alors que 1240, c'est une des limites de bande, mais c'est pas la largeur. C'est le début, mais c'est pas la largeur. Et 80 mégas, c'est pas ça. Donc voilà. Il y a des tas de pièges un petit peu autour de tout ça. Les fréquences attribuées, retrouver la bande d'émission en mégahertz autorisée par satellite en région 1. Je passe. Quelle bande de satellite en AMT, donc sans terre vers espace, est autorisée en région 1? Je passe. Je considère que j'ai fait l'impasse. Quelle attitude doit-on avoir en cas d'appel d'une station primaire sur la bande 2,4 giga? Je reste sur cette fréquence, cela ne peut pas arriver, j'attends la confirmation par courrier, je cesse toutes mes émissions sur cette bande. Alors, en fait, bon, la première, vaut mieux pas, cela ne peut pas arriver, j'ai jamais vu, mais est-ce que ça peut pas arriver? Je ne sais pas. J'attends la confirmation par courrier, bah non, quand même, faut pas exagérer. Je préfère répondre, je cesse toutes mes émissions sur cette bande, sachant que c'est quand même la NFR qui pose la question. Donc on va supposer que la NFR aime bien qu'on soit le doigt sur la couture du pantalon. Hein, c'est mieux. Avez-vous le droit d'émettre sur la fréquence 14350 en BLU? Bonne question. Oui. Non, car mon émission ne serait pas sur la bande radioamateur. Oui, si je peux vérifier la qualité de mon émission. Non, car cette bande n'est pas autorisée au trafic radioamateur. La bonne réponse, parce qu'il faut savoir quand même que quand on est en BLU sur les fréquences supérieures à 10 mégas, on est en bande latérale supérieure. Et quand je suis sur 14350, c'est la fréquence de ma porteuse qui est supprimée en BLU, mais ma bande latérale, donc elle va au-delà, donc elle va jusqu'à, on va dire, 14353. Donc si j'émets sur 14350, je suis certain d'émettre sur une portion qui n'est pas autorisée au radioamateur. En revanche, sur le 7 mégas, le 7 mégas, je suis en bande latérale inférieure, donc je peux éventuellement caler mon émission sur 7 mégas 2, et dans ce cas-là, mon émission, comme je suis en bande latérale inférieure, va être avant 7 mégas 2, de 7297. Alors je serai limite de la bande, il ne faut pas qu'il y ait des splatters. Donc que j'ai du ce que l'on avait vu la semaine dernière avec des émissions hors bande, donc il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, la réponse, ça serait plutôt la numéro 2. Et ça, c'est une question d'examen. Très ancienne, peut-être. Même question d'examen. Alors, pour les bonnes réponses sur les bandes satellites sur lesquelles j'ai passé allègrement, voici les réponses. 435, 438 pour la bande satellite en région 1 et 1240 à 1300 pour, encore une fois, pour le sens terre vers espace d'une liaison via satellite. Et évidemment, je cesse mes émissions et mon émission ne serait pas sur la bande autorisée. Les puissances autorisées, qui a le droit d'utiliser la classe A1A? Aucune classe, la classe 3, toutes les classes, la classe 2. Toutes les classes ont droit d'utiliser la classe A1A, c'est-à-dire les AREC et les F0. Quelle est la puissance d'émission maximum autorisée à un radioamateur de classe 1 dans les bandes 1240-1300? C'est 120 watts. Au-delà de 30 mégas, ces 120 watts puissance sont sortis d'émetteur. En classe J3E, quelle est la puissance maximum autorisée en modulant l'émetteur par un générateur de ton pour un radioamateur AREC? Tout ça, c'est super compliqué. Ce qui est important, c'est J3E, enfin, c'est puissance maximum, puisque quelle que soit la classe d'émission, la puissance n'est pas liée à la classe d'émission. Et puis le générateur de ton, on s'en fout. Ce qui est important, c'est puissance maximum. Et la puissance maximum, comme il n'est pas indiqué de bande, c'est 500 watts. Évidemment, si je suis sur une fréquence supérieure à 28 mégas, c'est plus 500 watts. Et la question, c'est quelle est la puissance maximum autorisée? Donc la puissance maximum autorisée, c'est 500 watts. Voilà. Sur 51,5 mégas, quels sont les types d'exploitation possibles? Tous les types d'exploitation sont autorisés. Auparavant, ça, c'est très, très ancien, c'est avant 2012 où la bande 50 mégas, c'était un truc un peu particulier. Il y avait des conditions bien particulières. Mais depuis 2012, le 50 mégas devient une bande normale. Le seul point un petit peu tordu, c'est que cette bande est attribuée non pas à l'ARCEP, mais au CSA. Et que dans le TNRVF, il y a un petit machin, une petite note, qui dit que le CSA, finalement, il délègue son pouvoir à l'ARCEP pour les radioamateurs. Mais c'est tout. Quelle est la puissance maximum autorisée entre 135,7 et 137,5? Donc la puissance maximum autorisée, c'est 500 watts en sortie d'émetteur. En revanche, il faut faire en sorte de ne pas générer plus de 1 watt PIRE. En sortie d'émetteur, j'ai droit à 500 watts, mais compte tenu du rendement, de mon système antennaire derrière et de son rendement, je ne dois pas dépasser 1 watt PIRE. Mais en sortie d'émetteur, j'ai droit à 500 watts. Quel est le gain maximum d'une antenne qu'un radioamateur a le droit d'utiliser? Il n'y a pas de limite, sauf, encore une fois, pour les bandes où la PIRE est limitée, donc le 2222 mètres, le 630 mètres et le 60 mètres. Voilà. Les antennes. Il y a quelques questions sur les antennes. Existe-t-il une réglementation en France concernant l'exposition du public aux champs électromagnétiques? Oui, mais uniquement pour les professionnels. Non, pour tout le monde. Oui, mais uniquement pour les stations délivrant plus de 100 watts PAR. Non. Donc oui ou non. Donc c'est oui. Et donc c'est ma fameuse 22775. Et mes différentes tensions par volt selon la fréquence. Est-ce que l'installation d'une antenne de 20 dB est soumise à une réglementation? Oui, c'est précisé dans le code de l'urbanisme, uniquement pour les opérateurs de classe 3, uniquement pour les fréquences supérieures à 1300 mégas. Non. Eh bien, c'est non. Il n'y a pas de réglementation pour des antennes dont le gain serait supérieur à 20 dB. Est-il autorisé d'installer une antenne radioamateur près d'une antenne de télévision? Uniquement si l'immeuble a moins de 12 étages, oui, non, c'est strictement interdit, uniquement si les deux antennes sont espacées d'au moins 10 mètres. Eh bien, il n'y a rien du tout qui empêche une antenne radioamateur d'être à côté d'une antenne de télévision, évidemment, sous réserve que ça ne perturbe pas la réception des utilisateurs qui sont raccordés à l'antenne de télévision. Donc, il est autorisé, donc la réponse est oui. Le code de l'urbanisme et les servitudes. Quelle est la distance à respecter entre une station de radioamateur et une station appartenant à l'administration? Alors, ça, c'est une question très, 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 très mal posée, parce qu'on a vu tout à l'heure que cette distance, entre guillemets, ça ne concerne que les stations réceptrices de première catégorie, qui peut-être n'appartiennent pas à l'administration. L'armée, jusqu'à présent, c'est pas l'administration. Jusqu'à preuve du contraire. Cette question est très 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 mal posée et la réponse c'est 1000 mètres. Enfin, quand vous voyez distance à respecter avec une station appartenant à l'administration, vous dites ah, ça c'est la zone de garde, donc c'est 1000 mètres. Comment ?
Comment
tu dis combien de mètres ? 1000, 1 km. Quelle est la hauteur maximale d'un pylône autorisé pour laquelle il n'est pas nécessaire de demander une autorisation ? Alors, c'est encore une question assez mal posée, mais voilà, c'est 12 mètres. Hein, donc, et là, on parle bien du pylône et de l'antenne verticale qu'il y a dessus.
C'est le total.
Si le pylône y fait 5 mètres et que l'antenne elle fait 7,50 mètres, on est bon, déclaration préalable. Et c'est pas une autorisation. C'est une déclaration préalable. On n'a pas besoin. Enfin, c'est la déclaration préalable, c'est dire je vais faire tel truc. Et y a très peu de chances qu'on vous le refuse, sauf servitude.
Il y a un voisin gracheux.
Ah non, ça marche pas. Il faudrait qu'il y ait une servitude. Du style zone classée, machin. Mais le voisin grincheux, il peut rien dire. C'est pas parce que ça fait pas beau que c'est interdit. D'accord ? La réglementation pour la pose d'une antenne en Corse requiert-elle une particularité administrative ? Bah, de toute façon, la Corse, jusqu'à présent, c'est la France, donc il n'y a aucune raison qui ait une particularité. Non. Donc, il n'y a rien. Voilà. Eh ben, on en arrive à la fin de cette séance. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.